Merci Alice et merci à toutes les organisatrices du séminaire de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter une partie de mes travaux et surtout, du coup, qu'est-ce que l'éco-critique ? Donc peut-être qu'effectivement vous avez entendu parler ou vaguement ou de plus près de éco-critique, éco-poétique. Donc ce sont des concepts, et enfin c'est même un champ à l'intérieur du champ littéraire ou du champ des études culturelles qui se développe beaucoup aujourd'hui et sur lequel je travaille depuis quelques années. Donc moi je suis hispaniste, comme Alice l'a dit, ma spécialité, en tout cas c'était ma thèse et ma spécialité de base ou d'origine, c'était plutôt la littérature espagnole contemporaine. Et depuis quelques années, j'ai fait un postdoctorat en littérature comparée. Et du coup, j'ouvre sur d'autres aires, même si je garde un pied dans le domaine Espagne péninsulaire, qui est mon domaine d'inscription d'origine. Donc, en fait, ma conférence, donc, qu'est-ce que l'éco-critique ? C'est un peu un titre un peu large pour vous montrer un peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle de ça. Comme ça, si vous entendez parler de ce concept, vous saurez peut-être à quoi ça fait référence. Enfin, j'espère que ce sera plus clair à la fin de ma présentation. Et donc, voilà, ce que je vais faire ici, ce n'est pas une conférence seulement théorique avec les auteurs qui ont inventé le concept. Enfin, je vais en parler un petit peu. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous présenter des œuvres qui sont des fictions qu'on peut appeler environnementales ou écologiques. Enfin, c'est des catégories qui sont toujours soumises à caution, mais on va dire ça pour les besoins du séminaire pédagogique, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire, une fiction qui traite d'écologie, de la littérature écologique, même du cinéma écologique, environnemental ? C'est ça que travaille l'éco-critique. Donc juste en guise de très rapide préambule, l'éco-critique, c'est né sous ce terme éco-criticism aux États-Unis dans les années 90. Donc je ne vais pas vous faire une généalogie de la chose, mais à la base, c'était des chercheurs et des chercheuses qui disaient, enfin, qui avaient à cœur de rapprocher deux champs. D'une part, les études écologiques, qui sont plutôt des études scientifiques, et d'autre part, les études littéraires. Et on pourrait penser peut-être de prime abord que les deux choses n'ont rien à voir. Or, l'idée, du coup, est de penser ensemble ces deux choses-là et de voir ce que ça peut donner. Donc, les fondateurs et fondatrices de ce concept éco-criticism aux États-Unis, Amérique du Nord, Canada aussi, donc dans les années 90, c'est plutôt des personnes qui sont à la base aussi des chercheurs, mais aussi des militants, ou des gens, en tout cas, s'ils ne sont pas militants écologistes, on va dire, qui ont une sensibilité, disons, très forte par rapport à ces thématiques environnementales. Du coup, un autre titre possible de cette conférence qui m'intéresse aussi, donc en fait cette conférence a deux titres, un titre un peu, pédagogique, qu'est-ce que l'éco-critique, et un autre qui est plutôt ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va faire plutôt une promenade, une enquête à travers un corpus comparatiste, donc pas seulement hispanique, mais aussi hispanique, à travers différentes œuvres et de voir quelles sont aujourd'hui, comment aujourd'hui les fictions s'occupent, entre guillemets, prennent en charge les questionnements écologiques, les questionnements environnementaux qui animent évidemment de plus en plus de monde sur la planète, hein, et pas seulement, encore une fois, en Espagne. Donc, fabulation environnementale contemporaine, ça fait peut-être un peu pompeux comme titre. Cela dit, la notion de fabulation, moi, je la trouve intéressante. Je l'ai prise chez Le Clésio, vous connaissez Le Clésio, prix Nobel de littérature 2008, qui parle de fabuler en disant le roman c'est refabuler toujours une tâche ou un exercice de refabulation permanente des mondes, des communautés, des agencements entre les mondes, entre les pensées, entre les communautés. Et c'est surtout au fondement de cette notion de fabulation, la notion de fable, de voir ce que le fait de mettre en fable un monde, une préoccupation, une inquiétude écologique, une expérience de menace écologique par exemple, qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que peut apporter une histoire que n'apporte pas par exemple un discours scientifique. Par rapport à du coup des écologues, des personnes qui travaillent en écologie scientifique, c'est un champ à l'intérieur des sciences de la vie et de la terre, dites de la vie et de la terre ou des sciences naturelles, qu'est-ce que les littéraires ou les gens qui travaillent en études culturelles aussi sur des objets filmiques par exemple, documentaires, etc., qu'est-ce que ça peut apporter comme regard et comme différence ? À mon avis justement, un des apports c'est l'histoire de la fable. Et moi, du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est fabuler justement un peu en essayant de mettre ensemble des corpus et voir ce qu'est la fiction écologique dans le temps contemporain, dans différentes aires. Alors, je ne prétends pas du tout embrasser, je dis c'est comparatiste et c'est contrastif et un peu large, je ne prétends pas du tout embrasser l'ensemble de la planète. Il y a des domaines dans lesquels je suis complètement ignorante, même si je m'y intéresse de loin, mais ce sont les langues de travail qui sont les miennes, qui vont me guider sur mes corpus. Donc, ça va être plutôt des choses donc, en espagnol, en portugais, en anglais, en français, en catalan aussi, ça sont mes langues de travail, à travers, disons, l'échelle planétaire. Donc, ça peut être Afrique, Amérique latine ou Europe. Pour le coup, l'Asie, c'est vraiment pas mon domaine et ça ferait quelque chose de trop vaste et de peut-être du coup trop superficiel. Donc, écolittérature, fiction et environnement, il y a une tendance depuis ces années 90 et cette fondation de l'éco-critique liminaire dont je parlais tout à l'heure à mettre un peu le préfixe éco devant tout. Donc, il y a une espèce de greenwashing qui touche aussi les études littéraires en ce moment, mais cela dit, on peut plutôt s'en réjouir parce que ça apporte des questionnements nouveaux, c'est-à-dire qu'ils ont 20-30 ans, mais qu'ils deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus sensibles, je dirais, sur ces questions littéraires. Alors, en fait, je vous propose du coup un parcours à travers littérature environnement, littérature écologique. Et l'environnement, enfin l'idée de cette littérature, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe autour de nous. Que ce soit en espagnol, medio ambiente, entorno, dans la plupart des langues, ou environnement, on se dit qu'il y a l'idée de ce qui est autour de nous, comme si nous, humains, étions au centre du référentiel, et l'environnement serait ce qui nous entoure. Bon, donc la littérature là-dessus, on voit à quel point elle est concernée par ça, puisque c'est ce qui fonde justement des fabulations littéraires traditionnelles, qu'elles parlent ou pas, de manière ouverte ou pas, délibérée ou pas, d'écologie, et ce terme je le définirai au fil de l'exposé. Les personnes qui ont fondé l'éco-critique, ensuite elles ont été suivies par d'autres gens qui ont dit, ben nous on va faire plutôt de l'éco-poétique, quelque chose de moins militant, mais qui va quand même regarder la dimension verte des textes, des romans, des poèmes, etc. Il y a plusieurs comme ça, disons catégories à l'intérieur de ce champ, mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se demander précisément ce que la littérature a à voir avec l'environnement et ce que ça peut donner. Concrètement, par exemple, un projet qu'on pourrait faire, c'est de se demander quelles sont les formes littéraires ou les formes culturelles. Moi, je travaille un tout petit peu en cinéma depuis très peu de temps, donc je vais plutôt parler de littérature, mais c'est aussi l'idée. Quelles sont les formes qui accompagnent les fables, au sens large, qui accompagnent, par exemple, les mouvements qu'on peut dire éco-territoriaux, c'est-à-dire le mouvement de défense du territoire, ou c'est aux ZAD, par exemple, ici, tous les mouvements où on a des gens, par exemple, qui se mobilisent contre un certain type de menace écologique, que ce soit la pollution de leur environnement, que ce soit, l'extractivisme, par exemple, toutes les logiques qui donnent, en tout cas, des inquiétudes, du souci et qui modifient les vécus des personnes qui vivent sur des zones menacées, même si on pourrait dire que toute la planète est une ZAD et que toutes les zones sont menacées, c'est plus sensible dans certains endroits que dans d'autres. Donc, par exemple, essayer d'établir ou de dresser une cartographie de tout ce qui est la littérature environnementale qui naît de l'inquiétude écologique, qui naît du constat de la menace écologique. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans mon travail depuis quelques années, de manière, donc, comme je le disais, comparatiste. Il y a aussi un grand concept, là, pour le coup, c'est un concept qui est un peu, j'imagine que peut-être vous en avez déjà entendu parler, qui est très à la mode, qui s'appelle l'anthropocène. Anthropoceno, en espagnol, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça a été créé par des biologistes, ce concept-là, en particulier un chercheur qui s'appelle Crutzen, mais peu importe, dans les années 2000, et qui dit justement l'anthropocène, c'est une ère géologique nouvelle. Alors, la datation du début de cette ère est soumise à plein de débats et de polémiques au sein du champ scientifique. Il y en a qui disent que ça commence avec la conquête, avec la colonisation, d'autres qui disent que ça commence avec la révolution industrielle, d'autres qui disent que ça commence aujourd'hui avec l'hypercapitalisme et l'hypermodernité, peu importe. L'anthropocène, ce qui est important, c'est qu'on dit que c'est l'humain, enfin je dis plutôt l'humain que l'homme, mais que c'est l'humain qui est au centre, si vous voulez, de l'ère géologique qui est la nôtre. C'est lui qui est l'agent principal de modification de, on va dire, de la planète, pour le dire rapidement. Eux, ils emploient, ces chercheurs-là, des termes plus spécifiques, on va dire, mais là, je vulgarise un peu à dessein, pour parler de dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme soit l'agent principal de la transformation du monde? Est-ce que c'est vrai, déjà? Donc cette catégorie est, encore une fois, pas tout à fait... unanime, en tout cas il y a des polémiques à l'intérieur des champs et des querelles de clochers, etc., sur les mots qu'on emploie, mais en tout cas, évidemment, au moment, à l'heure, on pourrait dire, ou à l'ère de l'anthropocène, si réellement l'humain transforme son environnement et qu'il est l'agent principal de transformation de l'environnement, ça a aussi des conséquences en littérature et ça peut expliquer cette vogue de l'éco-critique, enfin c'est une vogue relative, hein, mais de ce champ montant qu'est l'éco-critique ou l'éco-poétique. Donc, je vous disais que je vous proposais un parcours à travers différents types d'œuvres qui essaiment comme ça, qui se manifestent dans le temps contemporain. Donc, je suis plutôt là sur les années 70. Les années 70, c'est le début du discours écologique dans le champ militant, pas en science. En science, c'est fin du 19e. Dans vraiment ce qu'on appelle les écologistes, ça naît vraiment, cette sensibilité se met en mouvement et prend forme à l'intérieur de mouvements politiques réellement. L'écologie politique, ça naît vraiment dans les années 1970. Donc justement, mon corpus va de ces années-là jusqu'au temps extrêmement contemporain, c'est-à-dire 2019. Hein. C'est un peu ce que j'essaye de faire, une veille de ces fictions-là, dans le plus d'endroits possible, même si en réalité c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas trop où mettre les bornes de ce qu'est la littérature qui parle d'écologie et ce qui n'en parlerait pas. C'est, encore une fois, ça, c'est assez difficile. Donc du coup, il y a quatre, à mon avis, ce que je repère, moi, ce que je crois repérer, mais c'est pas la vérité, hein, c'est une catégorisation que je propose. Il y a quatre grands types de formes qu'on voit apparaître depuis, comme je le disais, les années 70 et aujourd'hui de manière encore plus manifeste sur ces fictions-là. La première, et c'est sans doute celle que vous avez le plus en tête si je vous dis qu'est-ce qu'une fiction écologique à votre avis, quel type de forme vous allez me citer, la plus courante en tout cas, et notamment dans les productions les plus commerciales et les plus vues et les plus lues, quand je dis commerciale, c'est pas forcément un terme péjoratif ici, au contraire, hein, c'est la forme dystopique, c'est-à-dire l'édification de un monde dans lequel précisément il en va d'une catastrophe écologique, par exemple d'une fin du monde. Donc c'est tout ce qu'on appelle fiction de la fin du monde. Les chercheurs ont donné plein de noms à ces fictions-là. Fiction de la fin du monde, fiction du climat, fiction de la menace. En tout cas, ce sont des mondes dystopiques, des mondes devenus irrespirables, des mondes peut-être que le terme le plus à même de relier tous ces mondes, malgré la diversité formelle qu'on trouve dans les dystopies, c'est des mondes inhabitables ou devenus inhabitables. Cette inhabitabilité, souvent, elle est d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'elle provient dans ces mondes-là, dans ces fictions-là. On dit toujours que c'est l'humain, enfin, il est inscrit en termes esthétiques, mais que c'est l'humain qui, justement, a mené à la catastrophe, comme on l'entend très souvent. Donc, ce sont des fictions qui, souvent, sont basées sur, disons, le principe du « et si l'humanité continue comme ça ?» ou « parce qu'on a tellement fait comme ça, on a tellement agi de cette manière-là, alors voilà ce qu'est le monde aujourd'hui. » Donc ces dystopies-là, la plupart du temps, elles sont situées dans des futurs proches. Donc ça englobe des fictions de science-fiction, des textes de science-fiction, des textes d'anticipation, ou parfois des choses qui se passent dans un futur vraiment très proche, dont on n'arrive pas forcément à distinguer du temps présent, tellement la menace serait imminente. En tout cas, c'est ce qu'on lit, ce qu'on voit dans ce terme, dans ce type de formalisation ou de fabulation. Donc je dis entre catastrophisme et réenchantement du monde, c'est un sous-titre, parce que ce qu'on peut dire peut-être, c'est que le fait que ces fictions soient aussi représentées, les dystopies, c'est peut-être parce que on a tendance à envisager l'écologie, je pense, et notamment dans le monde occidental ou les mondes occidentaux, sous l'angle, je reprends la catégorie d'un chercheur que j'aime bien, qui s'appelle Luis Pradanos, qui est un hispaniste qui travaille beaucoup sur l'écologie, qui parle de pédagogie de la catastrophe. Donc il dit souvent, les gens qui font, c'est souvent des films, hein, mais aussi des romans par exemple, qui font ce type de fiction, ce sont des gens qui ont à cœur d'envoyer un message, d'où le fait de parler de littérature pédagogique par exemple, ce qui encore une fois n'est pas forcément négatif malgré ce qu'on entend souvent. En tout cas, il y a l'idée de transmettre un message, voire une révolte simplement, de se révolter en disant il ne faut pas continuer comme ça, il faut sensibiliser les générations futures, enfin vous voyez le genre de discours qu'on n'entend pas que dans la fiction d'ailleurs. Sauf que là, ça prend une forme particulière. Donc, catastrophisme, pédagogie de la catastrophe, ça c'est souvent ce qui meut, ou le principe, disons, qui impulse ce genre de création de monde. Et d'autre part, réenchantement, parce que c'est vrai que ce sont des mondes catastrophiques, des Robinsonades, parfois des mondes détruits, où on a des humains qui essayent de survivre. Il y a plusieurs styles à l'intérieur de ça, il y a des fictions survivalistes, ça c'est très Amérique du Nord, hein. Vous connaissez peut-être le survivalisme qui donne vraiment un genre fictionnel hyper particulier. On a des gens qui essayent de survivre, ça peut être des films d'horreur, ça peut être des choses dystopiques au sens fort, hein. Et réenchantement parce que, et c'est plus rare, mais il y a aussi une dimension poétique au sens de construire quelque chose d'autre, envisager quelque chose d'autre que le monde en péril. Et souvent, à l'intérieur de ces mondes dévastés qui sont au bord de la catastrophe ou post-apocalyptique, post-catastrophe, on a des gens qui essayent de se réunir en comité, par exemple. Des gens, ça peut être des humains, ça peut être des non-humains, il peut y avoir des, quand je dis non-humains, donc des animaux, des machines, des robots, du végétal, enfin c'est pas seulement des agents humains qui sont dans ces fictions-là, qui vont essayer de reconstruire autre chose avec d'autres valeurs que celles qui ont mené à la prédation généralisée, à la dévastation du monde dans lequel on est. C'est pour ça que je parle de réenchantement, même si ce n'est pas présent dans toutes les fictions. Souvent, ce sont des univers assez dark, assez noirs, et dans lesquels, finalement, l'humain est mené à sa perte. Et c'est assez moral, en général. Il y a un discours moral qui dit, voilà, on a agi comme ça, et voilà où l'anthropocène, au sens actif du terme, voilà où ça nous a mené. Okay ? Donc, à l'intérieur de ça, j'ai fait une sélection qui est assez arbitraire. Je parle de monde luso-hispanique, mais pas seulement, comme je vous l'ai dit. Un grand texte, d'abord un roman, et ensuite ça a donné lieu à une adaptation quelques années plus tard en film, Blindness, Ensaios para Cegueira, donc c'est un roman portugais, L'aveuglement en français, de José Saramago, qui est un grand écrivain portugais que vous connaissez peut-être, qui a été prix Nobel aussi de littérature. Ici, c'est une épidémie, donc c'est l'idée d'un virus qui va se répandre sur un sol dévasté et presque apocalyptique. Sauf que le virus, en fait, c'est pas une maladie. Enfin, c'est une maladie, mais c'est pas justement. Enfin, c'est un virus particulier. C'est la cécité, c'est-à-dire que tous les humains deviennent aveugles. Et évidemment, la métaphore est, enfin, est extrêmement évidente, dans la mesure où c'est l'aveuglement, ce qui nous a mené à maltraiter, par exemple, notre planète, ou à la traiter d'une certaine façon, qui mène les humains à s'entretuer et à tuer les autres communautés, les autres espèces qui peuplent la planète. Donc ça, c'est un premier texte qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque de sa sortie et qui n'inaugure pas un genre, mais dans le monde luso-hispanique, c'est un des premiers grands textes, je parle de texte littéraire ou filmique, hein, qui montre justement l'idée d'un monde devenu invivable à cause de la gentilité négative et répétée et toujours recommencée de ces humains qui seraient inconséquents. Et donc la métaphore de l'aveuglement, comme je le disais, elle est quand même plutôt lourde de sens et plutôt évidente, je ne m'arrête pas forcément dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi dans ces fictions, c'est que souvent, on dit ces fictions de la fin du monde, des Robinsonnades, de reconstruire après la civilisation effondrée, etc. Mais ce qu'on pourrait dire, je crois, c'est que c'est aussi des fictions de la fin d'un monde. C'est le monde, mais c'est un monde. C'est une manière d'envisager le vivant, une manière de se comporter de l'humanité sur la planète, un régime politico-économique général, la modernité occidentale aussi, c'est quand même ça qui est dit, et qu'il y a ou il y aurait peut-être d'autres façons de vivre avec le vivant, on va dire, de manière plus harmonieuse. Donc ça, c'est une première idée. Je pense à des films, dans les films contemporains, là, récents, qui sont sortis, un peu blockbuster. Il y a Mad Max, le dernier Mad Max Fury Road, je ne sais pas si vous l'avez vu, 2015. C'est vraiment un film qui répond tout à fait à la catégorie là, que je suis en train de dénoncer dans le monde luso. Hein. Mais c'est tout à fait ce genre de film. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un engagement très fort de la part du réalisateur. Il y a aussi donc, une démarche, même si souvent elle est contradictoire, il y a plein de je ne peux pas m'arrêter là-dessus, mais il y a plein de choses qui sont des limites à cet engagement-là, notamment dans le côté blockbuster. Par exemple, le film Mad Max a été tourné dans un désert namibien, et pour le tournage, en fait, ce désert a été en partie ravagé parce qu'il fallait des terres vierges, que justement le tournage a complètement saccagé avec forcément l'accord du gouvernement namibien, qui c'était des accords commerciaux, alors même que par ailleurs le réalisateur avait à cœur de faire par exemple des costumes écologiques, un casting genré homme-femme avec des plats végétariens. Enfin, il y avait toute une démarche qui est très intéressante, et par ailleurs des effets collatéraux que ces fictions en fait donc évidemment elles ne peuvent pas être séparées. En tout cas, ce qu'on y voit dans ces termes-là, dans ces films-là, ces fictions-là, ces romans-là, c'est des pratiques de spoliation généralisées, qu'on soit en termes futuristes ou pas, qu'on soit dans des styles à présent ou en futur. On a toujours cette idée d'une spoliation généralisée, d'une logique prédatrice qui, à force, il y a cette idée de « à force ». Il y a comme l'idée de « on a épuisé », donc je le disais tout à l'heure, une dynamique de recommencement permanent qui fait que, on est dans le mythe un peu d'une modernité euphorique où la planète n'aurait pas de limites. Et là, ce sont des fictions qui, même si elles ne sont pas vraiment décroissantes, vont dire, si, il y a des limites, et à force de les franchir de manière impune, donc sans jamais se dire qu'il y a des limites, eh bien, voilà où ça nous mène. Donc, ce sont des fictions vraiment de la transgression de la limite, toujours recommencée. Donc là, je vous donne des idées. Si ça vous intéresse d'aller fréquenter ces corpus, moi, je fais un tour d'horizon et puis... j'en parle, je ne fais pas du tout, quand je dis ça, une hiérarchie en mode c'est bien, c'est pas bien, c'est bien écrit, c'est pas bien écrit. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qui existe comme forme et comme forme grand public aussi pour parler de ça. Il y a un roman catalan de 1974, donc fin du franquisme, qui est très intéressant parce qu'il parle à la fois de choses très politiques, pas écologiques, notamment le racisme. Fin du franquisme, donc 1974, c'est une période très sensible que vous connaissez, je ne vais pas m'arrêter dessus. Un roman catalan écrit en catalan, en plus, donc à la fin du franquisme, c'est aussi significatif, qui s'appelle en catalan « Manuscrit del segon origen », donc en français, je ne sais plus exactement la traduction, je crois que c'est « seconde origine » ou « le réveil », « le second réveil » ou quelque chose comme ça. C'est pareil, une fiction un peu survivaliste où après, là, il y a carrément une attaque extraterrestre, donc d'autres planètes avec des êtres qui viennent d'autres planètes. Et puis, suite à ça, eh bien, on a une fille blanche et un homme noir, enfin, c'est même des jeunes, c'est un roman jeunesse, littérature adolescente, on va dire, qui doivent repeupler la Terre et qui ont justement la mission, entre guillemets, qui leur est un peu tombée dessus, hein, de repeupler la Terre après les ravages de l'humanité. Donc dans ce genre de roman, on a vraiment l'idée d'une dystopie post-apocalyptique. L'idée aussi, c'est un trope, c'est-à-dire une figure qu'on trouve partout, du chaos régénérateur, du fait qu'il y aurait comme ça un grand bouleversement, un grand chamboulement, un peu inévitable, mais qui va régénérer précisément, permettre à l'humanité éventuellement de renouveler, de faire autre chose. Et on le voit ici dans la citation que j'ai extraite du roman. Nous sommes la dernière blanche et le dernier noir d'Idac. Après nous, les gens ne penseront plus à la couleur de la peau. Donc il y a l'idée de, après moi, eh bien, on fera mieux et pas forcément une catastrophe. On essaiera de faire un monde plus vertueux. Et souvent, ces fictions sont intersectionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont croiser, par exemple, la question de l'environnement avec la question du racisme, ce qu'on appelle racisme environnemental. C'est des choses qui sont beaucoup étudiées, en particulier en Amérique. Et qui, justement, prennent ensemble les problèmes au lieu de les séparer. Et l'éco-critique, c'est un peu l'idée. C'est de dire, arrêtons de tout cloisonner et pensons planétaire tout en pensant situé. Donc, c'est un peu cette idée. Donc, ça, c'est un grand best-seller, pour le coup, qui a eu énormément de succès à son époque, qui a été réédité des tas de fois, qui est souvent étudié au lycée, parce que c'est, comme je le disais, ça appartient plutôt à la littérature jeunesse, avec un style un peu naïf. Il y a un côté Adam et Ève. Enfin, il y a énormément de choses, un peu des résonances bibliques qui sont hyper fortes, mais avec un engagement, pour le coup, à la fois environnemental, à la fois antiraciste, à la fois antifranquiste, qui est absolument sensible. On revient ici en France avec un auteur qui est très intéressant, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vincent Message, qui lui propose justement une fiction en 2016 qui s'appelle « Défaite des maîtres et possesseurs ». Donc le titre, comme vous le voyez déjà, est extrêmement révélateur, « Maîtres et possesseurs », qui sont les maîtres et possesseurs de la planète, ben, qui s'érigent et qui s'octroient le droit, le statut de maîtres et possesseurs, donc a priori les humains, et les humains qui, du coup, ici, vont être mis en position d'espèces menacées, mais pas dans un côté post-apocalyptique. On est ici dans un autre monde, post-humain, on pourrait dire, mais où il y a encore des humains. Sauf que les humains sont une espèce vulnérable et non pas une espèce, disons, justement, de possession et de maîtrise. Ils ont perdu la possession et la maîtrise. Donc, il y a des personnes, enfin, des êtres, on va dire, qui viennent d'une autre planète et qui mettent les humains un peu en esclavage, par exemple, qui les mangent. Donc, on a plein d'humains dans ces fictions-là, dans ces mondes-là, qui sont destinés à l'abattoir et qui sont en situation d'être mangés. Et c'est l'humain qui devient comestible et l'humain qui devient potentiel viande et potentiel cadavre qui va nourrir une espèce dite supérieure, dite dominante. Donc ce sont des renversements de perspective qui sont très classiques dans ces fictions-là, mais qui ont le mérite ou la vertu de défamiliariser, c'est-à-dire de décentrer le point de vue pour rendre moins naturel des pratiques quotidiennes pour la majorité des gens dans nos sociétés, comme le fait par exemple de mettre les non-humains en esclavage dans un abattoir, dans une boucherie, etc. Donc c'est pareil, une fiction très engagée, mais qui, vous pouvez la lire à deux niveaux. C'est-à-dire à la fois on pourrait la lire et dire ouais, c'est extrêmement militant, c'est une fiction en mode pro-vegan et tout ça, et on peut dire que c'est vrai, mais on peut aussi dire que c'est se mettre dans une planète qui n'est plus tout à fait la nôtre, dans un futur, enfin, y a là une confusion un peu des temporalités entre présent et futur qui est très intéressante. Et c'est aussi un roman qu'on peut lire simplement un peu comme une fable pseudo-futuriste qui simplement décentrerait le point de vue, qui peut même être humoristique. Et on va trouver une histoire d'amour entre une humaine et entre quelqu'un de la race dominante, enfin c'est dit race ou espèce dominante, qui n'est plus l'espèce humaine. Donc ce serait une fiction post-anthropocène où on serait passé encore à des gens qui vraiment marquent la planète, la dominent, la possèdent, non plus les humains, mais un autre type d'espèce. Et du coup, les humains sont en lieu et place d'autres communautés qui aujourd'hui, du coup, sont plutôt sous le joug de l'humanité, en tout cas d'une certaine manière de produire, qui est celle de l'humanité, disons, moderne, occidentale, dominante, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ce sont des livres qui sont tous très intéressants, je ne vais pas faire de la publicité, hein, c'est pas mon but, mais pour vous montrer ce qui peut se faire. En parlant de viande, d'abattoir, de traitement du non-humain, donc là je parle des animaux non-humains, il y a aussi un livre qui est très intéressant en France, Isabelle Sorrente, 180 jours, c'est un livre qui date de 2013, et ça c'est une dystopie à présent. C'est-à-dire que ça ne se passe pas dans un futur proche. C'est l'histoire d'un prof de fac, donc comme moi ou mes collègues, qui veut faire un séminaire sur l'animal. Justement, il se dit « je vais faire de l'éco-critique ». En fait, le personnage ne le dit pas comme ça. Mais il dit « je suis philosophe, ça m'intéresse, le sort des animaux, je vais faire un séminaire sur ça ». Et il se dit « pour bien parler de ça, il faut que je m'immerge ». Et il va faire un genre de stage ou de parcours de reconnaissance dans un abattoir qui est situé en France, dans l'ouest de la France, on ne sait pas exactement où. C'est même pas un abattoir en réalité, c'est une industrie d'élevage, un élevage de porcs, un élevage industriel, donc à grande échelle avec tout ce que ça suppose. Ce prof de fac, donc, qui a plein de bonnes intentions, qui est plutôt sensible au végétarisme, etc., va du coup voir la réalité des personnes qui travaillent avec les porcs, du coup. Donc vous savez peut-être qu'au niveau du génome, ce sont les êtres les plus proches de nous. Et pourtant, on en dit, il n'y a qu'à voir les insultes qui sont proférées avec ce mot-là, par exemple. C'est intéressant de voir ça. 180 jours, c'est le temps que entre la naissance d'un porc et le, enfin l'insémination pardon, et le moment où il est envoyé à l'abattoir. Et c'est aussi la temporalité de ce roman. Donc ça, c'est un roman qui est pas très gai. Si vous n'avez pas envie de déprimer, c'est pas celui-là que je vais vous conseiller. Mais cela dit, il a vraiment le mérite d'être un roman choc avec une esthétique du choc, où petit à petit, on plonge dans le quotidien des personnes qui travaillent. Donc il y a aussi un croisement avec aussi les gens qui sont précaires, qui travaillent dans un abattoir, qui peuvent pas lâcher leur travail. C'est pas du tout en mode vive les animaux et les humains, on s'en fout. C'est pas du tout comme ça. C'est vraiment l'idée de voir aussi quel type de relations interspécifiques, donc entre espèces, on peut tisser quand on travaille là-dedans. Je vous mets juste une citation, je vous ai choisi une citation qui montre un peu la tonique de ce livre. J'ai donc c'est un personnage qui s'appelle Camélia, donc qui a une fleur, j'imagine, et peut-être deux femmes, j'imagine que ce n'est pas au hasard, c'est un homme, qui, lui, son job, c'est d'inséminer les truies pour justement continuer l'élevage. J'ai préparé les sondes à insémination, comme d'habitude. Je savais que j'allais voir Marina. Marina, c'est une truie avec laquelle il va tisser une relation particulière d'empathie hyper forte, comme si c'était un peu sa sœur, en tout cas en termes sans différence d'espèce petit à petit. Et ça va donner lieu à un certain type de troubles psychologiques et de prise de conscience. J'étais un peu triste de la trouver dans sa cage. J'ai inséminé les premières truies de la rangée. Et puis, au moment où son tour arrivait, Marina s'est tournée vers moi. J'ai cru qu'elle me parlait. « Ne m'insémine pas, je t'en supplie. Tu sais bien que ça va mal finir. » Ce n'étaient pas des mots, bien sûr, juste son regard dans ses grands yeux. Un homme en noir qui brandissait une sonde avec des bottes qui brillaient. Alors, je me suis mis à chialer. Donc, vous voyez, c'est un style assez cru. Hein. C'est d'ailleurs, ça parle de viande, c'est pas étonnant. C'est cru dans tous les sens du terme. Et précisément, c'est quelque chose qui, donc, comme je le disais, répond vraiment ou relève de l'esthétique du choc pour vraiment, je sais pas si c'est dégoûté, mais en tout cas, qu'il y ait une prise de conscience par le sensible et pas seulement par des messages intellectuels ou par des projections futuristes qui nous projettent loin. Là, on nous enferme dans un enfer, précisément, un enfer d'hommes et de porcins. Et je vais pas spoiler, mais c'est difficile d'en sortir pour le lecteur comme pour les personnages. Voilà. On descend un peu le curseur et en Afrique du Sud aussi, c'est des dystopies comme vous le voyez qui n'ont pas tellement de frontières, même si justement elles vont toujours formaliser des choses qui sont de l'ordre très situé, donc des problématiques nationales ou locales. Il va toujours y avoir des choses qu'on va voir réapparaître de manière transversale dans les différents pays qui sont concernés. Ninive, c'est un livre de 2014 qui a été traduit chez Zoé, qui est une maison d'édition suisse, en français, qui est très bien traduit d'ailleurs, et qui est aussi écrit par une femme. Là, c'est en fait une entreprise de personnes qui font de la relocalisation d'insectes, de nuisibles, enfin d'animaux nuisibles. Par exemple, vous avez des rats chez vous, ou des cafards, et vous appelez cette entreprise, mais au lieu d'éradiquer les cafards et les rats à grands coups de pesticides, raticides et autres cides, eh bien, ces personnes vont essayer de les remettre en circulation dans la nature d'une manière non cides, c'est-à-dire non meurtrière. Et ce qu'on voit proliférer justement, c'est que c'est l'Afrique du Sud, hein, donc c'est un monde extrêmement violent et contrasté, peut-être encore plus que dans d'autres territoires que j'ai évoqués. Eh bien, c'est très intéressant de voir que c'est édifier la modernité des grands centres commerciaux, des grands hôtels de luxe, des grands ensembles touristiques sur justement un monde d'insectes qui grouillent, insectes et autres nuisibles, non humains nuisibles, on va dire, qui grouillent. Et encore une fois, il y a un questionnement sur la nuisance, qui est vraiment le plus nuisible? Est-ce vraiment le cafard, le rat? Et est-ce qu'il n'y a pas justement une forme de miroir, en tout cas que la présence très forte de ces non-humains dans le texte de fiction peut nous faire réfléchir d'une manière un peu décentrée, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, on revient en Espagne, ici, avec un avant-dernier texte à l'intérieur de ces dystopies. Ça, c'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui en Espagne en 2012, parce que, pas forcément parce que c'est un très grand texte, enfin, ça c'est mon avis, c'est subjectif, mais bon. Ce qui est intéressant surtout, c'est parce que c'est venu à un moment où on a beaucoup parlé en Espagne, peut-être que vous connaissez ça, de romans de la crise, de littérature de la crise. Donc, vous savez qu'en Espagne, en 2008, il y a eu la grosse crise économique, c'est comme ça qu'on la connaît médiatiquement et même scientifiquement, qui a balayé beaucoup de choses sur son passage. Et il y a eu énormément de textes qui sont sortis, des textes très sociaux, très engagés ou pas, mais en tout cas qui enregistraient ou qui prenaient en charge toutes les difficultés socio-économiques, mais aussi socio-environnementales auxquelles les Espagnols et d'autres gens ont été confrontés pendant cette période 2008 jusque dans l'actualité. Donc 2012-2013, ce sont des années où on a eu énormément un pic de cette espèce de catégorie, la littérature de la crise économique, mais aussi écologique. Donc il y a eu pas mal de textes, et dans les textes de science-fiction ou anticipation à temps court, à futur court, eh bien on a celui-là, Cénital. Il n'y a pas de traduction française que je sache pour le moment. 2012, Emilio Bueso. Ce qui est très intéressant, c'est de montrer en encore la même chose, sauf que là, le monde post-apocalyptique, ce n'est pas un monde dans une autre planète avec des extraterrestres, c'est la crise économique. L'apocalypse, c'est la crise de 2008. La crise de 2008 en Espagne, donc dystopie à présent, on pourrait dire, qui va justement entraîner un certain nombre de manifestations et de symptômes et de phénomènes dans la vie des Espagnols. Donc là, il y a un lien très fort entre le fait d'habiter dans la rue et le fait de sentir justement la menace écologique aussi, et pas seulement la menace économique. En tout cas, les choses ne sont pas séparées. C'est pour ça qu'on peut dire socio-environnemental pour ce genre de fiction, et pas seulement environnemental, parce que toujours, évidemment, la société n'est pas pensée de manière séparée de la nature. Et ça, je le dirai tout à l'heure, mais c'est hyper important parce que, les sociétés occidentales sont souvent, on dit ça en anthropologie, basées sur une manière de voir qui est dualiste, c'est-à-dire souvent nature-culture, sauvage, civilisé, homme-femme, avec des paires de concepts. Donc ça traverse toute la philosophie occidentale, et des philosophes ou des littéraires de plein d'autres aires géoculturelles disent, mais ça, c'est très occidental, c'est pas forcément mauvais, mais ce dualisme, il a un certain nombre de conséquences. Et du coup, l'écocritique, c'est ça, un des apports majeurs, je trouve, et des intérêts majeurs, c'est de rapprocher et de décloisonner et de dédualiser un certain nombre de manières de penser, mais aussi de manières d'agir, humain, non humain, etc. Donc de dynamique de domination. Donc là, c'est vraiment l'idée de mettre ensemble économie, crise sociale et environnement, écologique, et ce qui se passe. Donc vous voyez ici, la mano invisible te ha robado la cartera y el futuro. Donc il y a vraiment l'idée temporalité et économie. Y no se detendrá cuando algunos gobernantes dimitan. Esto no se arregla con unos años de ajuste, ni inyectando capitales, ni nacionalizando bancos. Donc on voit ici les limites qui sont posées, en tout cas par le narrateur, un des narrateurs, de justement, disons, la solution économique gouvernementale à ce type de crise, en disant que c'est une crise bien plus profonde et bien moins ciblée ou précise que ce qui nous est souvent dit. Esto no se va a quedar en los aeropuertos sin aviones, los trenes de alta velocidad sin pasajeros, la gente sin pisos y los pisos sin gente. Ça veut dire donc qu'il y a des suites, et c'est pas seulement ce qu'on en dit, il y aurait un au-delà de la crise ou un plus de la crise que la fiction, elle, si le discours scientifique ne peut pas encore le faire, la fiction, elle, peut aller chercher grâce justement à la liberté qu'elle a de pouvoir explorer d'autres temporalités. Donc très rapidement, ce roman, en fait, c'est des gens donc, qui vivent dans l'Espagne post-pétrole, il n'y a plus de pétrole, post-énergie fossile, on va dire, anthropocène poussée à sa limite, et qui vont essayer de reconstruire un éco-village, une éco-aldea, donc des militants qui vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Et c'est très web, avec des pamphlets, des échanges internet, enfin des nouvelles technologies, comme on le dit, pour essayer de penser comment on se mobilise. Donc un roman sur le militantisme, mais aussi un roman philosophiquement sur ce qu'on peut dire de la crise au-delà de ce qu'en dit, par exemple, le discours médiatique. Donc voilà, ça c'est un premier tour d'horizon. Et avant de terminer, je voulais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de BD, peut-être que vous aimez peut-être lire des BD, il y a énormément de BD qui appartiennent aussi au genre des dystopies environnementales ou socio-environnementales. Et il y en a une notamment que j'aime beaucoup qui s'appelle Canopée, qui a été écrite et dessinée donc, par Louise Jour, qui est une auteure belge, une autrice belge, en 2014. Et ça c'est pareil, donc ce sont des dessins qui sont à la fois très beaux parce que c'est la nature, encore une fois entre guillemets, qui est toujours préservée dans certaines bulles, comme dans Mad Max un peu, dans certaines bulles et dans certains endroits encore utopiques, mais tout l'alentour est dévasté et les humains ne peuvent plus respirer. C'est ce qu'on voit sur la couverture, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais avec des combinaisons, des masques à gaz et une histoire d'amour entre eux, des gens qui vivent encore dans l'humanité préservée et des gens qui en sont sortis, qui sont partis habiter sur d'autres planètes. Et toujours le recours, ça c'est aussi la littérature, c'est quand même un des intérêts, oui, par rapport au discours scientifique, le fait de créer des liens du genre histoire d'amour, empathie, de mettre du sensible entre les catégories séparées, évidemment, ça va suggérer des types de relations interspécifiques ou inter-espèces ou inter-communautés qui ne sont pas du tout pensées de la même façon lorsqu'on travaille juste en études littéraires ou en biologie, par exemple. Donc ça, je dirais que c'est la forme la plus représentée. Vous avez sans doute des idées de blockbusters que vous avez vu au cinéma qui répondent à ce que je dis, voire même de romans qui répondent à ce genre de choses, mais il y a aussi de la BD et il y a aussi sans doute d'autres formes que j'ignore parce que c'est tellement vaste que c'est difficile de tout dire. Voilà. Donc ensuite, on peut aussi dire qu'un autre type de fiction qui est moins représenté que la première, mais qui est quand même extrêmement, qui s'occupe beaucoup de cette question d'écologie ou d'environnement, c'est tout ce qu'on appelle, alors ça aussi c'est vaste et j'ai pas le temps de m'arrêter, mais tout ce qu'on appelle nouveau réalisme. Nouveau réalisme, ça veut dire qu'on va pas se projeter dans des mondes post-humains, dans des mondes post-apocalyptiques, mais on va plutôt se mettre dans l'inquiétude, dans l'ici et maintenant, et se dire, bah, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, on est plutôt, je disais tout à l'heure, l'utopie, elle est plutôt dans ce genre de roman-là, se dire comment on peut se mobiliser, créer des mondes, même si on sait qu'ils sont petits, qu'ils sont précaires et qu'ils ne font pas forcément le poids par rapport aux menaces formalisées que je viens d'évoquer, qui sont beaucoup plus formalisées, comme je disais, les menaces que les solutions d'ailleurs. C'est pas pour rien, c'est peut-être parce qu'il y a une, je sais pas, une croyance en l'impuissance ou plein de choses comme ça. En tout cas, il y a l'idée toujours de mettre en question la culture du propre de l'homme. Vous avez sans doute déjà entendu ça, l'humanisme se base sur le propre de l'homme. Qu'est-ce qui distingue notre espèce du reste ? Le rationalisme, c'est tout ce qui est anthropocentrisme ou anthropocentré, ce qui met l'humain au centre et au-dessus, en général, des autres formes de vie, des autres formes d'être vivant. Eh bien, dans ces textes-là, on va voir apparaître justement une manière un peu à la fois réaliste, dans le sens où elle est inscrite dans un présent, avec des formes de militantisme, par exemple, très actuelles, ou des thématiques extrêmement actuelles, mais donc sans besoin, je le disais, de passer par des projections, par exemple, ou des voyages dans le passé, dans le futur, etc. Mais pour mettre quand même en question cette idée d'anthropocentrisme et surtout de l'aveuglement qui produit un anthropocentrisme néfaste et, comme je le disais tout à l'heure, dévorateur de monde ou dévoreur de monde. On peut dire ça comme ça, je dis monde au pluriel. Par exemple, dans le monde hispanique, une auteure sur laquelle j'ai fait en partie ma thèse, Belén Gopegui, c'est une auteure qui est très militante, communiste, mais qui a aussi fait des fictions qui sont vraiment plus délibérément axées sur la question de l'écologie. Il y en a deux, et une de 2007 qui s'appelle « Le père de Blanche-Neige et le padre de Blancanieves ». Dans cette fiction, c'est un peu comme dans Cénital, on va avoir un groupe de militants écologistes et des ennemis qui veulent détruire ce qu'ils essaient de créer, qui veulent essayer de, faire de l'oxygène à partir de micro-algues. Donc c'est des choses qui sont très basées sur des expériences scientifiques qui existent pour essayer de créer justement des bulles d'air, et au sens pas seulement métaphorique, de l'air respirable, de la respirabilité, là où on aurait plutôt tendance à mettre de l'inhabitable, de la difficulté, de la pollution, de la surpollution, de la prédation. Donc je passe, mais c'est simplement pour vous dire qu'on a ici une alternance des voix dans ce roman entre un sujet collectif qui serait l'humanité éclairée, qui aurait pris conscience de comment on pourrait agir, et ça parle aussi de féminisme, ça parle aussi d'homosexualité, ça parle aussi d'antiracisme. C'est vraiment toujours pareil, les catégories minorisées ou dites dominées, qui pour le coup pensent ensemble les types de domination qu'elles subissent et essayent de mettre ensemble leur vécu pour essayer de proposer autre chose. Donc ce que je voulais dire entre éco-critique et éco-poétique, c'est qu'il y a à la fois critiquer l'existant, critiquer une manière de faire dominante, on va dire, mais aussi proposer d'autres alternatives, c'est le sens de poétique. C'est vraiment être propositionnel, proposer des structures d'appel particulières dans la littérature ou dans le cinéma qui vont essayer de, comment dire, d'ouvrir peut-être, je ne sais pas si le cœur, mais en tout cas d'ouvrir les gens d'une manière différente de ce qu'on voit par exemple aux informations, avec toujours le catastrophisme, et qu'on voit aussi dans les dystopies. Donc par exemple, simplement cette phrase, il convient de pratiquer l'art d'imaginer ce qui existe. Là j'ai traduit cette citation, j'en ai traduit certaines parce que j'avais fait une conférence pour un public plutôt non hispaniste sur le même sujet. Donc c'est vraiment imaginer ce qui existe, c'est vraiment ce que font ce genre de fiction. Et Gopegui, elle appartient aussi, on pourrait dire, à un courant qui s'appelle l'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est un courant, je ne vais pas faire l'historique, mais qui pense ensemble en particulier la domination de genre, homme-femme, on va dire comme ça, et la domination humain-non-humain. Et il y a pour le coup un roman qui est vraiment écoféministe, c'est un peu une bible ou vraiment le roman écoféministe, qui s'appelle Beatriz Illaloba. C'est un roman espagnol pour le coup, d'une auteure, une autrice espagnole, Concha López Llamas, qui elle pour le coup va entrelacer d'une manière extrêmement intime et sensible le vécu d'une louve en Espagne, dans l'Espagne reculée, c'est vraiment un roman un peu rural, et d'autre part le vécu d'une femme qui a subi des violences de género, donc des violences, on pourrait dire maintenant de genre en français, des violences conjugales ou en tout cas une domination, ce qu'on va appeler une domination masculine. Et du coup on voit une communauté de destin, c'est un roman très émouvant. Donc au début il y a eu beaucoup de critiques justement très masculinistes, anthropocentriques, qui ont dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, les femmes, les animaux, c'est un discours réactionnaire, c'est passéiste d'en appeler, enfin de comparer les choses. Et en réalité, si on le lit d'une manière un peu, sans préjugés, c'est pas du tout ça, c'est plutôt l'inverse. Tracer des communautés de destin interspécifiques pour mieux solidariser des causes dont on a tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à penser séparément. C'est un roman qui est vraiment très émouvant et qui répond à cette histoire d'écoféminisme ou à cette catégorie où les militantes disent ben, c'est le même type de domination, la domination masculine et la domination, anthropocentrée sur les ressources, par exemple, ou sur les autres formes de vivant, c'est le même combat. Et ça, ce sont des mouvements qu'on voit aujourd'hui dans les manifs de plus en plus essaimés. C'est aussi un mouvement qui vient d'Amérique du Nord et qui existe de manière de plus en plus sensible et qui dit se battre contre le phallogocentrisme, à la fois phallo de phallus, donc d'une domination masculine, le logos aussi d'un rationalisme qui serait celui, d'une certaine manière, de prédater ou de faire avec les autres formes de vivant et les ressources. Je passe très rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a aussi un roman français, si vous êtes plutôt lecteur de français, je crois qu'il n'y a pas que des hispanistes parmi vous, un roman qui s'appelle « Que font les reines après Noël ?». Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est pareil, on pourrait dire que c'est un roman écoféministe dans la mesure où c'est un roman qui va allier des questionnements psychologiques sur une femme qui cherche sa sexualité, qui a des aventures lesbiennes, pas lesbiennes, en tout cas, elle ne veut pas se définir, mais elle cherche en tout cas des, disons, je sais pas, des catégories auxquelles appartenir en termes de genre ou d'orientation sexuelle. Et par ailleurs, elle va interviewer des gens qui travaillent avec des non-humains. Ça peut être un boucher, ça peut être des gens qui travaillent en laboratoire et qui font des tests sur les animaux. Ça peut être des gens qui travaillent dans un zoo, par exemple. Et tous ces questionnements-là vont s'entremêler pour montrer à quel point les causes, ou les choses, comme vous préférez, sont indissociables et inextricablement liées. Sauf que c'est fait d'une manière qui n'est pas du tout catastrophiste, mais plutôt, à la fois, comme je le disais, réaliste au sens où c'est très documenté. Il y a vraiment du discours scientifique qui est affiché comme tel à l'intérieur de ces textes-là, genre des expériences de laboratoire avec des protocoles, comment est-ce qu'on teste tel médicament sur une souris, par exemple. Et d'autre part, des questionnements intimes qui, dont on voit justement, comme dans le roman précédent, qui ne sont pas du tout séparés les uns des autres. Voilà. Celui-là, je le passe parce que je n'ai pas le temps d'en parler. Monde hispanique, il y a un écrivain très connu, je parlais tout à l'heure des romans de la crise, Rafael Chirbes, un peu comme Belén Gopegui, sont des grands écrivains que beaucoup ont attaché, moi-même d'ailleurs, beaucoup attaché à une écriture néo-marxiste, ce qui est vrai, mais néo-marxiste aussi, qui ne mettrait pas de côté, néo, au sens où ça ne mettrait pas de côté une pensée écologique, mais ça la mettrait vraiment au centre de la pensée communiste qui est développée dans ces textes-là. C'est vraiment communiste au sens des communs, au nouveau sens, je dirais, c'est-à-dire des communs, comment aborder et faire avec le commun ou les communs, on parle beaucoup de ça en ce moment, des communs en écocritique et pas seulement, c'est-à-dire les ressources qu'on a en commun, au lieu de séparer, d'individualiser, de faire des précarés, de la propriété, maître et possesseur, comment mettre en commun. Donc on peut dire justement que des romans de la crise comme Crematorio y en la Orilla de Chirbes, que peut-être vous connaissez, c'est vraiment un diptyque, hein, c'est les grands romans sociaux, des grands romans sommes du nouveau réalisme espagnol. À l'intérieur de ça, le questionnement écologique est extrêmement fort. Il y a moins peut-être de non-humains, mais il y a tout un questionnement justement sur ce que fait l'humain lorsqu'il est tellement au centre et lorsqu'il ne pense plus son propre centrisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez... C'est pareil, hein, ce n'est pas des romans qui sont gays, mais on n'est pas dans une dystopie comme dans les premiers textes où on a vraiment des choses qui sont extrêmement réalistes, encore une fois, au sens où on n'est pas sur une exoplanète, on n'est pas dans un espace fermé, mais dans quelque chose qui circule de vous à moi, d'humain, non-humain, dans les communautés. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc simplement, la citation est intéressante. « La ville est un Titanic ou un truc de ce genre qui coule, ça c'est la traduction du seuil, hein, qui coule dans une grande inconscience et dans un grand fracas. Un Titanic de poche, bien sûr, qui lève l'ancre pour mettre le cap sur le naufrage. Au Wiedersehen, adios, goodbye, adieu. L'orchestre joue, continue de jouer en équilibre instable, tandis que le bateau sombre, emporté par la déferlante. Tu sais qu'à cause de la fonte des classes, tout ce que l'on construit aujourd'hui aura disparu d'ici 30 ans. Un Titanic, oui, mais sans grandeur. » Donc il y a l'idée aussi ici, simplement pour finir sur cette partie, l'idée de questionner ce qu'on pourrait appeler la démesure justement de l'anthropocentrisme, l'hubris du point zéro, c'est-à-dire l'hubris du fait de se dire qu'on est objectif, par exemple, lorsqu'on fait ce qu'on fait, par exemple pour la posture du scientifique, lorsqu'on fait ce qu'on fait avec ce qu'il y a autour de nous, si on veut parler d'environnement en ces termes. Voilà ce que je voulais dire. Donc là, je ne lis plus du tout ce que j'avais prévu de lire, mais ce n'est pas très grave. C'est même peut-être mieux. Éco-thriller, éco-polar, ça c'est, j'ai quatre formes, ça c'est ma troisième forme. Sur les deux dernières, je vais passer peut-être un peu plus vite, notamment sur celle-ci. Mais ça, l'éco-thriller, c'est très intéressant. Éco-thriller, donc au début, c'est né encore une fois en Amérique du Nord et c'est devenu en français éco-polar. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais on va dire que si, parce que sinon, voilà, on n'a pas le temps. On peut dire qu'ici, ce qui est intéressant, c'est un mix, c'est-à-dire un recouvrement ou un mélange des structures de l'enquête, à la fois de l'enquête scientifique et à la fois de l'enquête environnementale. Le principe, je disais tout à l'heure, et si on continue comme ça, pour les dystopies, voilà ce qui va se passer. Là, le principe, c'est plutôt qui est coupable, comment on en est arrivé là, mais dans le sens de qui est le coupable, qui ou quoi ou comment, quel système. Alors, il y a vraiment des dynamiques d'envisagement, c'est un mot qui n'existe pas, que j'emploie à dessein, pour dire mettre un visage sur ce qu'on dit le système. Par exemple, pour le réchauffement climatique, c'est le réchauffement climatique. Non, c'est dire il y a des gens et des institutions et des entreprises et des agencements, on va dire, qui participent à ça de manière active, qui créent ça de manière active. C'est pas seulement géologique, on peut agir dessus. Et donc, ce sont évidemment des auteurs plutôt militants, comme le premier qui a fondé le genre, ce qui s'appelle Neal Stephenson, États-Unis, pareil. Le premier roman du genre, ça s'appelle Zodiac, The Eco-Thriller. Donc, The Eco-Thriller, c'est vraiment pour dire, c'est le roman du genre, et ensuite, il y en a eu plein, et il y en a plein. Donc c'est vraiment structure d'enquête à la fois policière. Donc ce qui est bien dans l'idée, c'est que c'est une forme populaire. Le roman, vous savez que c'est un des, enfin le roman policier, c'est un des, une des littératures les plus lues et ça ne se dément pas aujourd'hui, au contraire. Voilà, donc un roman sur quatre en France, je crois, est acheté et de la littérature policière. Donc là, c'est une manière d'arriver au grand public, un peu comme par la dystopie, mais par des structures d'enquête policière. Donc c'est à la fois, on pourrait dire que c'est roman noir et roman vert. C'est à la fois roman noir ou roman policier, c'est pas la même chose, mais on va dire que si, pour encore les besoins du séminaire, des procédures d'enquête avec des coupables, des gens qui enquêtent, etc., un crime, une fonction ou une visée d'élucidation, et d'autre part, des documents scientifiques qui viennent de rapports établis par la communauté scientifique, par exemple le rapport Stern, qui a été le grand rapport où on a commencé à parler et à dire « oui, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui a été prouvé ». Donc, c'est des fictions qui vont faire intervenir des archives scientifiques, des discours scientifiques, qui peuvent aussi en recréer, en mode pastiche, pourquoi pas, mais qui vont beaucoup intégrer dans leur, dans leur dispositif de la littérature scientifique, d'archives scientifiques, quand je dis scientifique, là, c'est plutôt des sciences naturelles, ou de l'écologie scientifique, et d'autre part, des enquêteurs qui souvent vont être des experts, donc soit des scientifiques, soit des militants, soit, je sais pas, des bouddhistes végétariens, des gens qui pratiquent le sport et qui adorent les arbres, ça peut être des choses comme ça, c'est aussi une forme d'être écologique, c'est pas seulement on est scientifique, c'est pas seulement expert, mais en tout cas, les policiers, si vous voulez, les enquêteurs et les enquêtrices, ont justement la spécificité dans ces formes-là d'être des spécialistes, soit sensibles, soit professionnels, de ce genre de cause. Et vont du coup enquêter avec beaucoup plus de peut-être ténacité que d'autres enquêteurs sur ces causes-là. Donc ça, c'est le premier du genre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre qui va donc afficher son substrat scientifique, ça s'appelle d'ailleurs de la fiction à substrat professionnel, en mode on affiche, un peu comme les séries médicales où on va mettre, les médecins disent oui c'est vrai, ce sont des vrais diagnostics médicaux dans des séries comme à l'époque Urgence, d'ailleurs justement mon prochain c'est Michael Crichton, le producteur de Urgence à l'époque. C'est le même style, sauf que c'est en écologie. Et quelqu'un comme Crichton, justement, qui est donc, voilà, lui c'est Jurassic Park, c'est Urgence, donc on ne le présente plus, quelqu'un d'extrêmement connu, la fiction, justement, les éco-thrillers, ça a été tellement en vogue, et ça l'est encore, mais dans les années 2000, que quelqu'un comme lui a fait un livre, State of Fear, donc État d'urgence en français, un livre en 2005 qui a été un énorme best-seller, un des livres les plus lus au moment de sa sortie aux États-Unis. Il s'est mis, si vous voulez, au genre. Lui, il faisait plutôt du techno-thriller. Là, il a fait de l'éco-thriller, justement, en disant, bah, moi aussi, je vais faire une fiction d'enquête avec des policiers, des ministres véreux, etc., sur le réchauffement climatique, en me basant sur les nouvelles données des rapports qui viennent de sortir sur le sujet. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que son livre a fait une polémique immense aux États-Unis, à la fois chez les lecteurs naïfs, c'est-à-dire non professionnels, et à la fois dans la communauté scientifique. Parce que c'était quelqu'un qui n'était pas scientifique, qui traitait des données scientifiques et qui arrivait à un public peut-être encore plus grand que simplement, enfin simplement, que les scientifiques ne le font lorsqu'ils communiquent et qu'ils vulgarisent leurs paroles. Donc ça, c'est pour dire à quel point ça a été une déferlante, beaucoup en Amérique du Nord, mais c'est aussi ici. Donc là, je vous en donne d'autres, mais je ne peux pas m'arrêter sur tout. C'est une fiction canadienne, ça, pareil, avec un virus, qui a inoculé le virus, qui est à l'origine de la pandémie. Donc évidemment, ça va toujours être des politiciens cyniques, des firmes qui n'ont aucun scrupule, par exemple, des choses comme ça. Mais pour autant, ce sont des fictions qui ne sont pas tellement manichéennes, c'est le reproche qu'on fait parfois, ça peut arriver, mais ce sont des choses qui sont, encore une fois, extrêmement documentées, extrêmement fouillées, et tellement pro, qui vont mettre du détail, mettre de la science, que ça va vraiment brouiller les pistes d'une simple fiction morale, bien, mal, etc. Il y en a dans tous les domaines, je pense, toutes les aires géoculturelles. Je pense aussi à Kim Stanley Robinson, ça c'est une trilogie fondatrice qui s'appelle la trilogie du climat, la trilogie climatique, qui appartient plus à ce qu'on appelle la cli-fi dans l'éco-critique nord-américaine, fiction du climat. Donc c'est pourquoi la planète se réchauffe. Un peu comme Crichton, c'est la même chose, sauf que ça va donner justement un certain nombre d'histoires particulières dans des laboratoires. Dans cette trilogie, par exemple, tous les personnages, ce sont des scientifiques qui essayent d'enquêter sur le pourquoi du réchauffement, encore une fois à grand renfort de discours véritables, véridiques, en tout cas scientifiquement prouvés, on va dire, sur la science. Tout ça mêlé, évidemment, de fiction, de petites histoires minuscules, mais qui font, évidemment, une trilogie de grande ampleur et de très grande ambition. Et puis, pour terminer cette partie, ce qui est intéressant, c'est de penser aussi que ces éco-thrillers, ok, ils sont nés en Amérique du Nord, c'est là-bas que la forme est la plus dynamique, mais on en trouve aussi dans des aires culturelles et géographiques très différentes, et par exemple en Afrique. Ici, un roman gabonais d'une autrice qui s'appelle Sandrine Bessora. Bessora, c'est son nom de plume, qui a écrit en 2004 un roman sur le pétrole, l'extractivisme, c'est-à-dire l'extraction à outrance du pétrole dans un pays africain du Golfe de Guinée, qui est le Gabon, donc qui est un grand pays de production de pétrole depuis son indépendance en particulier. Donc c'est un peu l'épopée de Elf Gabon, qui avait un monopole sur le pétrole pendant très longtemps, aujourd'hui devenu total. Et ce qui est intéressant, c'est juste pour vous illustrer que c'est pas seulement une forme nord-occidentale, ce genre de forme, c'est aussi une autrice qui d'abord a fait une thèse d'anthropo. Donc elle a fait une thèse d'anthropologie sur les mémoires pétrolières au Gabon, comment les gens, les locaux, ont vécu, par exemple, l'arrivée d'elfes sur le territoire, l'extraction du pétrole à outrance, les saccages et les ravages, et en même temps les retombées économiques ou pas, que ça a eu sur le pays, que ça a eu sur le gouvernement, le racisme qui s'est installé à l'intérieur de ça. Il y a toutes des métaphores justement sur les strates géologiques et sur les strates sociales de la société à l'intérieur d'elfes. Il y a énormément de territorialisation ou de matérialisation géologique des structures, on va dire, de domination raciale et sociale à l'intérieur du Gabon. Donc c'est très écho, c'est tout à fait un spécimen intéressant pour les gens qui s'intéressent à la question. Et Bessora, donc, d'abord, a fait une thèse d'anthropo. Et après, elle s'est dit, c'est une autrice que j'ai rencontrée qui m'a dit ça comme ça. Elle m'a dit, après, en fait, moi, j'avais envie de toucher un large public et une thèse d'anthropologie. Personne ne va lire ça. Donc, elle avait déjà publié des livres, par ailleurs, sur d'autres sujets, pas du tout militants ni écologistes. Et elle s'est dit, je vais faire de ma thèse un roman, mais quel roman va toucher ? Un roman policier. Donc une enquête policière avec l'explosion d'un cargo pétrolier au large du Gabon. On voit que c'est un peu une excuse, mais une excuse qui prend au sens fort du terme, hein, qui prend justement le lecteur ou la lectrice dans une fiction, qui va vous embarquer dans une fiction qui en réalité est une thèse d'anthropologie remasterisée, on pourrait dire remaniée, redéguisée dans une forme qui va être lue par plus de gens, une forme policière. Donc une enquête qui est à la fois géologique et policière, et à la fois écologique et policière, sur les mémoires pétrolières au Gabon et sur ce que fait Elf au Gabon, avec un style qui est extrêmement extrêmement humoristique, extrêmement punchy, comme on dit aujourd'hui, extrêmement sexualisé. Par exemple, là où on peut dire que c'est écoféministe aussi, c'est qu'il y a tout une description et même une formalisation, c'est plus qu'une description, de tous les dispositifs d'extraction du pétrole. Donc au Gabon, c'est comme ça, dans le paysage, il y a beaucoup de trépans, un certain nombre d'outils et de machines qui servent, de puits de forage qui servent à extraire le pétrole. Et elle en parle beaucoup en termes de viol de la terre, comme si justement ces dispositifs violaient la terre, qui allaient se venger. Ça, c'est un trope, une figure qu'on va trouver dans plein de littérature écologique, contemporaine et pas seulement. Et après, l'idée d'une vengeance de la nature, encore une fois, je ne veux pas raconter la fin, ni déflorer, c'est le cas de le dire, l'ensemble du livre, mais pour le coup il y a vraiment cette idée très écoféministe de violer la nature à grands coups de dispositifs d'agencement non humain, machinique on va dire, qui sont représentés en termes de phallique abusif. Donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver pas seulement chez elle, mais qu'elle pratique beaucoup et qui donne, je pense, un certain type de révolte. C'est une structure d'appel qui est assez particulière à la littérature écoféministe. Donc je ne raconte pas la fin de l'enquête d'élucidation. Mais ce que j'aime bien, c'est un jeu de mots, peut-être vous trouverez que c'est gratuit et que ça sert à rien, mais moi j'aime bien l'idée de dire que ces fictions d'enquête, c'est une conclusion sur cette avant-dernière partie, c'est des fictions qui visent à élucider l'écocide. Écocide, c'est l'idée de cide, de meurtre de la terre, ou de vivant. Éco, c'est la maison, vous le savez, la terre, le vivant. Et cide, c'est le fait de faire justement des crimes écologiques toujours recommencés, et lorsqu'ils sont au bout d'un moment advenus à dimension planétaire, alors on peut parler d'écocide. Élucider l'écocide, ça veut dire qui sont les agents, qui sommes-nous, nous agents, de cet écocide qui commence à se propager d'une manière extrêmement inquiétante. Et vengeance de la nature, comme je disais, parce qu'ici la Terre va se venger d'une manière que je ne vais pas vous raconter, mais il y a une vengeance de la nature, ça fait le lien avec ma dernière partie et conclusion, qui s'appelle « Décentrement et hommage aux invisibles ». Ça, c'est un peu mes formes chouchou personnellement, c'est les formes que je préfère, parce que je les trouve justement peut-être... j'aime pas le terme d'exotisme, évidemment, parce qu'il n'irait pas du tout, mais c'est des manières de décentrer, justement, une manière d'aborder l'écologie, en Europe peut-être, ou en Occident peut-être, Occident au pluriel toujours, qui est peut-être encore trop dualiste. Souvent, peut-être, vous avez entendu parler de la catégorie du réalisme magique, souvent appliqué aux romans latino-américains ou aux romans africains, où on dit réalisme magique, c'est quand il y a, ou réalisme merveilleux, c'est quand il y a des choses réalistes, on définit rarement les choses en détail, mais voilà, et des choses qui seraient de l'ordre de l'invisible, des esprits, des entités, du non-humain, un peu ésotérique, etc. Donc là, je caricature volontairement, mais souvent, quand on dit réalisme magique, ça charrie ce genre de représentation et d'imaginaire. Et ça pose problème à un certain nombre d'auteurs, qu'on met dans ces catégories-là et qui ne s'y reconnaissent pas en disant « mais non, réalisme magique, c'est une manière occidentale de voir ce qui pour nous est réalisme tout court ». Donc c'est intéressant parce que dans ces textes dont je vais parler pour terminer, on a beaucoup justement des entités, quand je dis des agentivités, c'est-à-dire des formes agissantes dans l'univers de la fiction, qui a la parole mais aussi qui fait les histoires, qui agit, qui grouille là, qui sont ces mondes. C'est pas que des humains, donc j'ai beaucoup parlé d'anthropocentrisme, de machines, c'est aussi du non-humain, non-humain animal, non-humain végétal, divinité, par exemple, non-humain sacralisé, non-humain divinisé, génie des eaux, génie des forêts, on trouve beaucoup ça dans ces romans dont je parlais là, mais pas seulement, ou des humains dont on ne sait pas vraiment quelles sont leurs frontières, des personnages ou des narrateurs et narratrices qui sont à la fois des humains, à la fois des non-humains, et qui font des fictions qui sont peut-être un peu déroutantes parfois. C'est pour ça que ce sont des romans qui ne sont pas tout à fait des best-sellers, mais qui sont pourtant extrêmement suggestifs, je dirais. Un premier, là je vous ai fait une sélection de mes romans coup de cœur que j'adore, mais il y en a plein d'autres. Un premier, c'est Anguille sous roche. Il y a une coquille sur le PowerPoint, j'en suis désolée, ce n'est pas Ali Zemir, c'est Ali Zamir. C'est un jeune auteur comorien, dont je crois que c'était le deuxième ou le premier roman, je ne sais plus. En tout cas, il dit sa narratrice, dont on ne sait pas si elle est une femme ou une anguille, pardon. Ça se passe aux Comores, dans un monde de pauvreté, de dévastation socio-environnementale, je le dis vite. Et sa narratrice dit ceci. « Ce sont les histoires anguilliformes qui m'intéressent, les histoires insolites, celles qui ont l'aspect d'une anguille comme la mienne. Ce sont ce genre d'histoires que les lecteurs de journaux comme de best-sellers actuels ignorent complètement. » Donc vous voyez ici, il y a des genres qui sont montrés comme étant des genres pas dominants mais plus représentés, comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'autres genres plus mineurs peut-être, même si la catégorie là est récusée, qu'on ne voit pas assez, des histoires qu'on n'entendrait pas assez. C'est pour ça que je disais hommage aux invisibles, c'est parler de ceux qui ne parlent pas ou qu'on ne ferait pas assez parler, qu'on ne visibiliserait pas assez. Les histoires vraiment vraies et bizarrement vraies, donc réalisme magique, tous ceux qui écrivent ou lisent des histoires qui ne sont pas anguilliformes, je le dis bien, sont loin de la réalité de ce monde. Donc c'est l'idée de pluraliser, de dire il n'y a pas un monde. Il y a un monde, il y a une forme de faire monde, mais il y en a aussi d'autres qu'on ne verrait pas assez et que ces fictions vont mettre en forme et vont mettre en scène d'une manière justement hyper visibilisante pour dire il faut aussi parler de ce qui grouille autour de cette manière d'envisager l'humanité, dont on dit c'est l'humanité, mais dire c'est l'humanité, c'est excluant et il y a d'autres manières de voir, de faire vie, de composer des mondes, comme dit Philippe Descola, qui est un anthropologue qui s'intéresse beaucoup à ces questions. J'ai un autre texte du même genre un petit peu, de l'auteur qui s'appelle Jean-Luc Rahimanana, qui est malgache. C'est un texte de 2008 qui s'appelle « Za » et qui est difficile à lire pour des francophones qui ne parleraient pas créole, même si, alors j'ai essayé de le lire, mais ça ne va pas du tout être comme ça qu'il faut le lire, évidemment, parce que je ne parle pas créole. Mais c'est un créole qui est destiné, qui est francisé pour être lu aussi par un public français, tout en étant extrêmement situé. Donc c'est toujours cette histoire de planétarité située, comme dit Spivak. Avoir un propos planétaire, écologique, c'est quand même l'idée d'avoir un propos sur la planète entière, sur le vivant entier, mais depuis une situation qui est la nôtre particulière, et pas toujours depuis un centre invisible qui serait celui de la modernité occidentale. Donc je m'essaye à ça. Traversée de ces marées de merdre, pont pourri, impraticable, ne sais pas pourquoi Za a pris ce raccourci. Une zambe, glissée, entre les planches recouvrant ces merdes, traçant ce chemin. Rire des gosses, sales gosses, ils puent. Za sait maintenant de quel pays de merdre ils ont apporté ces odeurs de merde. Made in ces marées de merdre. Tournez le regard vers cette capitale des misères, alimentée par des ordures et ces huiles de vidange vomies par le Marseille. Za te raconte pas la suite de mon histoire de... Donc ici, vous voyez, c'est volontairement la langue est complètement hybridée, décentrée. Et aussi, c'est une narratrice qui devient folle, qui s'appelle Za, qui de ses Za, c'est jeu, c'est son jeu à elle. Elle devient folle parce que son fils a été enseveli, est mort, noyé et étouffé dans un fleuve de plastique, qu'elle appelle fleuve de merde et qui est en fait son environnement quotidien d'une ville Tananarive, donc la capitale de Madagascar, qui est extrêmement polluée et extrêmement inhabitable. Mais c'est pas du tout, vous le voyez, pour envisager l'inhabitable ici, c'est pas la dystopie, c'est pas l'enquête, c'est des récits de minuscules, comme l'auteur le dit lui-même, d'invisibiliser, de minoriser pour montrer autre chose sur ça. Je passe sur le prochain qui est un roman brésilien, mais j'ai pas le temps d'en parler, c'est un peu le même style. Et là, pour le coup, ça, c'est une autrice qui s'intéresse à ces questions-là et que je trouve la plus puissante de l'époque, c'est encore une fois très personnel. Elle vient de sortir un nouveau roman qui s'appelle Rouge Impératrice, qui est un roman afro-futuriste qui est très intéressant, sur le fait que c'est l'Afrique désormais qui accueillerait toute l'immigration du monde. Donc elle fait beaucoup ce genre de renversement. Une auteure qui travaille sur le genre, sur les sexualités, on va dire, autres ou non conventionnelles en Afrique. Donc ça, c'est quand même particulièrement décentré, on peut dire, intersectionnel et décentré. Et ici, dans Crépuscule du tourment, pardon, qui est un magnifique livre qui est en deux tomes. Le premier, ce sont des voix de femmes qui explorent à la fois leur sexualité, leur environnement, l'histoire coloniale et l'histoire écologique. Donc c'est hyper important, hyper intéressant. Et aussi l'écoféminisme. Elles habitent, certaines de ces femmes, dans une société matriarcale qui s'appelle Vieux Pays, un peu en mode origine du monde, mais c'est vraiment extrêmement puissant. Et dans Vieux Pays, donc, il se met en place un matriarcat écologique. C'est quelque chose, ce sont des choses qui existent, qui sont documentées, c'est pas une fiction dystopique ou projective seulement. Et ces narratrices vont encore une fois mettre en scène, justement, des vécus invisibilisés et des manières de faire écologie invisibilisée. De dire l'écologie n'est pas l'apanage de l'Occident. D'ailleurs, colonialisme et prédation ont à voir. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez ces auteurs-là. Ils le soulignent tout le temps. Le fait de faire entrer l'histoire de l'esclavage dans l'histoire de l'écologie, de comprendre quel est le rapport entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose chez Miano qui est extrêmement sensible, et c'est une auteure qui travaille sur d'autres thématiques, en particulier sur le racisme, qui est franco-camerounaise elle-même. Et dans ce texte-là, il y a des, voilà, à la fois de l'écoféminisme, mais de l'écoféminisme du Sud, au sens où il va intégrer justement l'histoire coloniale, et en particulier l'histoire du continent africain, avec des mythes et des choses dont je vous passe les détails, mais ça, c'est d'une puissance absolument remarquable, je dirais. Il m'en reste trois, ne vous inquiétez pas, je vais bientôt me taire. Il y a un autre texte que j'aime beaucoup. Alors celui-là, pour le coup, il n'est pas du tout connu. Miano publie chez Grasset. Aujourd'hui, c'est une des autrices africaines les plus lues en France. Là, Melibea Obono, c'est un peu inconnu au bataillon. Il y a une traduction de ce texte que j'ai faite d'ailleurs, qui va bientôt paraître, mais dans des presses universitaires. Donc malheureusement, ça ne va pas être une grande, un grand lectorat, mais bon, c'est déjà ça. Et c'est un texte qui s'appelle La Bastarda, la bâtarde en français, qui date de 2016 et qui vient de Guinée équatoriale. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce pays. C'est le seul pays d'Afrique, ce qu'on appelait avant Afrique noire, Afrique subsaharienne, qui est hispanophone, qui est une ancienne colonie espagnole. Et qui est une dictature absolument féroce et farouche, où il n'y a pas de maison d'édition et où il est absolument interdit de publier, à part des choses qui seraient de l'ordre de l'éloge du régime. Et du coup, évidemment, ces auteurs, soit ils sont en exil, soit ils sont sur place, mais du coup, ils publient sous le manteau, à leurs risques et périls. Et c'est vraiment très compliqué pour eux de pouvoir publier. Donc, ils publient souvent en Espagne quand c'est possible. C'est le cas de Melibea, qui a publié dans une toute petite maison catalane qui s'appelle Flores Raras. Donc déjà, le nom dit tout, hein, dont c'est un des premiers titres. Et ça, c'est pareil, intersectionnel, c'est-à-dire que c'est une narratrice. À la fois, elle est orpheline, elle est Fang, donc une des ethnies majoritaires de la région gabonaise équato-guinéenne, là. Fang, fille, enfin orpheline de père et de mère, donc fille de bâtarde, c'est ce qu'elle dit, bâtarde, fille de bâtarde, et en plus lesbienne, et en plus noire, et ensuite quand elle va en Europe, donc elle se prend une certaine forme de racisme autre dans son vécu, qui vient ajouter à toutes ces catégories stratifiées. Et aussi, elle parle énormément de la prédation néocoloniale, donc là c'est pas tellement colonial, c'est plutôt aujourd'hui, de la forêt équatoriale. Et à la fin du roman, encore une fois, je ne révèle pas tout, mais simplement, il y a une communauté minorisée à cause de sa sexualité, donc c'est plutôt des personnes transsexuelles et homosexuelles, en Guinée équatoriale. Donc vous imaginez, le contexte est très compliqué dans la dictature que je viens de décrire pour ces personnes-là. Et du coup, qui vont aller se réfugier dans la forêt et essayer de vivre dans une espèce de société à part. Je ne sais pas si utopique, parce que c'est tellement dur que ce n'est pas comme ça que c'est formalisé, il n'y a pas de béatitude ou d'angélisme, mais il y a une manière de faire monde autrement à l'intérieur de la forêt, tout en se reconnectant avec une tradition ancestrale de la forêt comme refuge des, disons, spiritualités alternatives, des sexualités alternatives, de cachettes par rapport au colonialisme, etc. Regardez donc, ce sont les derniers mots du roman. La forêt de mon village était le seul refuge des gens qui, comme moi, n'avaient pas de place dans la tradition Fang. Moi, l'enfant d'une fille mère, moi, la bâtarde, la femme Fang, moi, la bâtarde, l'enfant d'une fille mère Fang, moi, la bâtarde, la lesbienne. Donc, vous voyez, l'accumulation des choses est le seul refuge possible à l'intérieur d'un monde humain où il n'est pas possible de respirer, encore une fois, dans tous les termes, hein, écologiquement, mais là, c'est surtout pour des raisons politiques, sexuelles, on va dire, et spirituelles aussi, la question est très présente. Eh bien, on va trouver la forêt et une solidarité humain-non-humain à l'intérieur de cette forêt équatoriale. Pour terminer, j'ai largement dépassé mon temps, donc je vais vraiment switcher sur mon dernier exemple. J'en avais d'autres, mais peu importe. C'est un peu mon chouchou, celui-là, c'est pour ça que je termine avec ça. C'est un roman jamaïcain. J'ai pas parlé des mondes caribéens, mais évidemment, tout ce que j'ai dit là, avec des différences, c'est très sensible dans la littérature contemporaine des Caraïbes. Et il y en a un en particulier, Kay Miller, qui est un auteur assez jeune, comme vous le voyez, qui a publié un livre qui a été traduit en français par By the Rivers of Babylon, c'est le titre français choisi par la maison d'édition Zulma, et qui va lui justement parler, enfin vraiment intriquer d'une manière extrêmement brillante et puissante, l'histoire du colonialisme, l'histoire des religions minorisées comme les Rastafari en Jamaïque. On a toujours l'impression que la Jamaïque c'est une terre rasta, mais c'est pas vrai, hein, le rastafarisme y est minoritaire et minorisé et souffre de discrimination, etc. Et à la fois la question de la perception de ce qu'est la réalité, ce qu'est le réalisme magique. D'ailleurs il dit ça à un moment, il dit « et non, mon texte n'est pas du réalisme magique à l'intérieur même de la fiction ». En disant qu'est-ce que c'est les croyances, qui dit que c'est vrai, qui dit ça c'est l'écologie, qui dit ça c'est la planète. Encore une fois, droit à la croyance au sens de droit à refabuler autrement un certain nombre de manières d'envisager les mondes ou le monde au pluriel, le monde en tout cas pluriversel on va dire. Maintenant, voilà la grande question philosophique. Si dans la forêt un arbre tombe et que personne n'est là pour entendre, le bruit a-t-il existé ? C'est une question troublante qui considère qu'un type de créature se situe au-dessus des autres. Donc ça, c'est l'anthropocentrisme, l'homme, l'humain, au-dessus de la pyramide. Et puis ensuite, plus on descend, et moins il y aurait de sensibilité, moins il y aurait d'intelligence, moins il y aurait de vie. D'ailleurs, le minéral n'aurait pas de vie. Alors que là, c'est tout à fait des questions qui sont posées par la fiction. Donc c'est une manière de décentrer qui n'est pas du tout la même que dans d'autres types ou régimes de discours. Car ce qu'ont entendu serpent, grenouille des bois, souris, punaise, est-ce que cela ne compte pas ? Et brin d'herbe, pierre et terre ? Est-ce que leur présence compte pour rien ? Si un homme s'envole en Jamaïque et que seuls les pauvres l'ont vu voler, alors a-t-il volé ? Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.